Alors, les radicalisations et les violences religieuses. Il faut comprendre ces violences. C'est l'un des problèmes, un élément non négligeable de notre monde. Les violences dites religieuses, celles actuellement dans le monde. Alors, j'ai regardé un peu les statistiques, elles sont effrayantes. Un phénomène qui est en augmentation. En particulier, on pense tout de suite à la question du djihadisme ou de l'islamisme. Ces dernières années, ça se compte en dizaines de milliers d'attentats dans le monde, surtout dans les pays musulmans en fait, parce qu'on peut à peu près plus de 30 000 attaques et plus de 100 000 morts en Afrique. En Europe, c'est nettement moins, c'est 53 attentats et 294 morts en 10 ans. Alors c'est peu, mais en même temps, il y a une augmentation de 80% de ces violences d'origine islamique et djihadiste. Bon. Et puis des dizaines de tentatives d'attentats qui sont déjouées chaque année. Mais il n'y a pas que l'islamisme et le djihadisme, il y a l'hindouisme aussi, on le sait moins, des dizaines d'attaques, des centaines de morts aussi, et même la menace nucléaire tout simplement entre l'Inde et le Pakistan qui plane à chaque période et très régulièrement. Pourtant, dans l'islam comme dans l'hindouisme, la violence est considérée comme un péché impardonnable, notamment dans l'hindouisme. Et l'islam se veut une religion de paix. Et pourtant, ces religions arrivent à produire de grandes violences à l'échelle géopolitique et planétaire. Alors, dans le christianisme, c'est-à-dire dans le monde chrétien, alors ces violences en tant qu'attentats, violences, attaques, etc., sont nettement moins nombreuses par des personnes qui se disent chrétiens, ou chrétiennes plutôt. C'est moins violent politiquement, mais en même temps psychologiquement, il y a des phénomènes troublants de sectarisme, de diabolisation des autres. Et puis on pourrait rappeler, pourquoi pas, certains pourraient nous rappeler le code noir. En disant que, regardez, le crime contre l'humanité de l'esclavage n'a-t-il pas été fait au nom de l'Évangile et par des chrétiens qui ont commis des actes absolument répréhensibles. Alors justement, c'est très intéressant cette affaire du Code Noir en deux mots parce que en 1685, Louis XIV, donc à la cour de Versailles, décrète le Code Noir et en 1686, donc l'année d'après. C'est-à-dire tout de suite après, parce qu'on n'est pas à l'époque de nos réseaux sociaux ni de nos chaînes d'information continue, le Saint-Office au Vatican fait un décret qui exige la libération immédiate de tous les Africains capturés et détenus en esclavage. Donc l'Église catholique a été la seule puissance de l'époque à répondre directement au Code Noir en l'interdisant. Ça, on ne le dit jamais, donc j'en profite pour le dire. Ça veut dire que dans l'islam, comme dans l'hindouisme, comme dans le catholicisme ou le christianisme en général, souvent la religion est utilisée. Utilisée comme source de violence, alors qu'elle n'est pas forcément elle-même, dans ses principes, à l'origine de la violence, en tout cas dans ses textes et ses principes et même ses autorités. Pas toujours, ça dépend. Le phénomène n'est pas le même, surtout chez les chrétiens, que par rapport à d'autres religions. On sait qu'il y a des fatwas qui peuvent être décidées dans l'islam, etc. On va essayer de comprendre ce phénomène d'un point de vue, de tous les points de vue possibles. Même si on n'a qu'une demi-heure, il ne faut pas exagérer non plus. Mais on va essayer de globalement de comprendre et d'avoir une piste d'éclairage de notre foi chrétienne par rapport à ce phénomène-là. Alors, quelques notions. D'abord, ce qu'on appelle le fondamentalisme. Il y aura des ismes, il y aura des ismes. L'extrémisme, le jusqu'au boutisme. Pour les chrétiens, enfin, en tout cas pour moi, je considère cela comme une sorte de suicide de la pensée. C'est-à-dire, on arrête de réfléchir. On stoppe la raison comme on éteint la lumière. Un cancer, finalement, du dogme religieux. Donc, il y a un dogme religieux, il y a une croyance religieuse, on y croit, on y adhère, on a reçu la grâce pour y croire. Et puis, eh bien, on va laisser pousser une sorte de cancer psychologique. Sur cet acte de la raison et de l'intelligence. Donc c'est une attitude de refus de toute modération, de toute alternative, de toute intelligence. Intelligence, ça veut dire lire à l'intérieur. On stoppe la raison, c'est comme ça, c'est une sorte d'acte superstitieux. La superstition, c'est ça. J'arrête de réfléchir. Par exemple, je crois au Père Noël, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas, il existe. Parce que si je me mets à réfléchir, je me rends compte que ça n'existe pas. Donc, mais même avec quelque chose de vrai, comme un dogme religieux chrétien, ben, je peux très bien avoir un rapport superstitieux, c'est-à-dire j'arrête de réfléchir. Ce qui, on le verra à la fin, est à l'opposé de la démarche profonde de la foi chrétienne. Mais on peut avoir ce processus intérieur. Alors du coup, c'est plus la réalité qui va me parler. Rappelez-vous, la réalité, la vérité, on a parlé de la recherche de la vérité dans les premières catéchèses. C'est l'inverse, c'est ma vérité. que je crois venir de Dieu ou de la religion, que je vais imposer au réel. Donc il y a une forme d'idéalisme. Or ça va produire de la violence. Parce que lorsque le réel ne correspond pas à ce que je veux, je vais prendre un autre cas. Je suis amoureux, mettons, hein, de ma femme, et puis soudain, je projette sur elle mes désirs, mon idéal de femme, et puis soudain, elle ne correspond plus à cet idéal, parce que c'est une personne réelle. C'est pas le film que je me fais. Au début, je suis amoureux, je projette sur cette demoiselle mon idéal. Puis finalement, je me rends compte qu'elle ne correspond pas tout à fait. Et bien, je finis par détester, par me montrer violent envers cette personne-là parce qu'elle ne correspond pas, elle n'est plus le film que je me fais. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans la violence religieuse, hein, ce fondamentalisme. Alors, il y a une loi religieuse, il y a un germe de violence parce que lorsque la réalité, les personnes en face de moi ne correspondent pas à ce que je voudrais, que j'appelle bien, eh bien, je vais produire de la violence et je vais appliquer, par exemple, une loi religieuse, on pense à la charia, mais il y en a d'autres, sur lesquelles je vais être radical. Donc, fondamentaliste, je ne vais pas, il ne s'agit pas de composer, on va en parler tout à l'heure, hein, mais je ne vais pas avoir une sorte d'intelligence du réel, je vais au contraire vouloir que le réel se courbe, se soumette au principe. Vous voyez, donc c'est un germe de violence par rapport aux personnes, aux choses autour de moi. Bon. Et ce fondamentalisme qui est un suicide de la pensée va produire donc ce qu'on appelle la radicalisation, c'est-à-dire un processus par lequel je vais devenir de plus en plus extrême et de plus en plus fermé dans mes idées et aussi dans mon comportement, dans mes sentiments. Voilà, je vais interpréter tout d'une façon idéologique et littérale de tous les principes. Alors, on va dire, voilà, je vais être radical, hein, je vais sacraliser des coutumes qui sont secondaires. Dans l'habillement, dans la nourriture, dans le comportement. Bien sûr, je vais désigner ce qui est de l'ordre du péché et je vais confondre entre la détestation du péché et la détestation du pécheur. Hein, parce qu'il va venir comme celui qui ne correspond pas à mes idées va venir me bousculer, c'est normal. Mais je vais me mettre à vouloir le supprimer, le détester, le supprimer. Et donc, là aussi, attitude d'ostracisme, de xénophobie, de peur, et une peur parce que je veux considérer que celui qui ne pense pas comme moi va me menacer puisque j'ai absolutisé des choses qui peut-être parfois sont absolues, mais on va voir comment on pense en chrétien ce genre de choses. Il ne s'agit pas non plus de relativiser du roi, tout est dans tout, j'y reviendrai. Hein, mais dans un premier temps, c'est la peur qui va, et par peur, je vais, comme un animal blessé ou attaqué, ben, je vais réagir en mordant, et ça va produire évidemment de la violence. Troisième phénomène, la violence, le sectarisme. Le sectarisme, celui qui coupe, le sécateur. Hein, par des actes, je vais vouloir couper. Hein, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus, hein, Matthieu 12, 30. Alors vous allez dire, mais Jésus aussi a dit ça, celui qui n'est pas avec moi, sauf qu'il parlait de la loi d'amour, lui. Il ne parlait pas d'une autre loi que celle de l'amour. Effectivement, celui qui n'aime pas, eh bien n'aime pas. Celui qui n'est pas pour la loi d'amour est pour une autre loi, celle du non-amour, ou celle d'un amour à moitié. Bon, donc ça marche quand Jésus le dit, mais parce qu'il parle de la loi d'amour. Mais quand il s'agit d'une autre loi, de toute autre loi, quelle qu'elle soit, bien là, on tombe dans une haine, dans une violence contre celui ou ceux qui n'ont pas la même idée que moi. Et cette violence, elle est irrationnelle, c'est-à-dire elle ne vient pas d'un raisonnement, d'une recherche de la vérité. Elle vient, et on en a parlé dans les catéchèses déjà, hein, d'une recherche où on considère que si chacun a sa vérité, du coup, c'est celui qui a la vérité qui va s'imposer, c'est la loi du plus fort, la jungle. Hein, qui va imposer sa vérité. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le débat politique, comme on pense que chacun a sa vérité qui n'existe pas. Une vérité vers laquelle tout le monde nous convergeons, nous y allons tous. Eh bien, au bout d'un moment, si chacun a sa petite vérité et dit « c'est celui qui va imposer », vous voyez, aujourd'hui, le wokisme, le gender, on en a parlé, on veut imposer une vérité, eh bien, il va l'imposer, on va l'imposer au Parlement, on va l'imposer dans la culture, on va l'imposer dans la société, comme si, à force de répéter qu'un homme est une femme, il va devenir une femme. Et on va obliger tout le monde à se courber. Et là, c'est déjà une forme de violence. Eh bien, c'est le même phénomène dans la violence religieuse. C'est-à-dire, je vais obliger tous les autres à penser comme moi et je vais les détester parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Et donc, on va produire toutes sortes d'activismes extrêmes, le terrorisme, l'assassinat. Et vous voyez, là où je veux en venir, c'est que cela relève d'un véritable trouble mental. D'ailleurs, D'où vient le mot assassin? Ça vient d'une tribu qui prenait du hashish. Et on les appelait les Jashashin. Ceux qui étaient pleins de hashish. Donc ils prenaient de la marijuana, enfin je sais pas, de drogues, pour pouvoir avoir l'esprit tellement perturbé, la raison n'était plus dans sa pleine conscience, dans sa pleine logique, et ça leur permettait d'être hyper violents à la guerre. Et précisément, l'assassinat religieux vient d'un trouble mental. Il faut que l'esprit, que la raison soit complètement troublée, perturbée, hein, pour que je puisse aller jusqu'au meurtre, à la violence, au nom d'une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui prône la paix. Il faut avoir un retournement. Évidemment, on peut aussi interpréter, dire que ça vient du diable, mais j'en parlerai pas, c'est-à-dire d'un retournement, d'une tentation, d'une perturbation, d'un détournement diabolique, hein, qui est venu nous berner, en fait. Bon, berner, celui qui devient violent. Donc, pour reprendre le raisonnement, donc, le fondamentalisme, c'est un trouble de la raison. Alors, je vais mal raisonner. Du coup, je vais tomber dans la radicalisation, qui est un trouble psychopathologique. Et souvent, on le voit avec les auteurs d'attentats, etc. Il y a quelque chose qui va pas bien dans leur tête. Je me souviens, ça vient d'une forte dépression, d'une rébellion, etc. Aussi, la prise de stupéfiants, on l'a vu. Et cette radicalisation va entraîner au sectarisme et à la violence, qui est un trouble politique. Et socio-culturel, au sens où je vais, dans la culture, dans le monde, essayer de mettre des bombes pour imposer une façon de penser. Alors, c'est une utilisation quand même politique de la religion. Hein. Inversement, il y a un autre mot qu'il faudra prononcer, c'est le mot intégrisme. Alors, quand on dit intégrisme, évidemment, dans la culture actuelle, dans le milieu culturel, je dirais, professionnel des journalistes, et les communicants intégristes, c'est aussi la même chose que fondamentalisme, radicalisation, sectarisme, etc. Mais attention, d'ailleurs, j'ai regardé un texte qui disait « tout ça, c'est de la pensée dogmatique ». Ah ben, je suis désolé, moi, j'ai une pensée dogmatique, je crois à un dogme, je crois à une vérité, j'y crois de tout mon cœur. Or, justement, on va nous dire, mais dès que vous pensez qu'il y a un dogme et qu'une vérité, ça veut dire que vous êtes déjà radicalisé. Ben, si, c'est pas vrai, au sens où je l'ai dit. Mais intégriste, ça vient du mot intègre, intégral, intègre. Alors, évidemment, du point de vue technique, quand on parle des intégristes au niveau catholique, par exemple, on parle, par exemple, des lefévristes. Bon. Mais ce ne sont pas forcément des personnes violentes et méchantes. Ce sont des personnes qui ont un rapport à l'Église, à la foi, à la tradition, à ce qu'ils appellent la tradition, une tradition qui s'est stoppée à un moment donné parce qu'il y a eu des blessures, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, peut-être qu'un jour dans une autre catéchèse. Mais nous ne parlons pas de la même chose que du fondamentalisme, que de la radicalisation ou de la violence sectaire et du sectarisme. Nous parlons d'un acte qui est intrinsèque à la foi, qu'on peut aussi appeler le traditionnalisme, le fait d'être attaché à une tradition. Eh bien, dans ce cas-là, j'espère bien que les catholiques ne sont pas des gens qui vont relativiser leur foi. Hein, un catholique modéré, est-ce que ça existe? On cherche des musulmans modérés, j'espère qu'il n'y en a pas. J'espère qu'il n'y a pas de catholique modéré. On ne peut pas être un petit peu catholique, ou de temps en temps, quand ça m'arrange. Et c'est ce que voudrait d'ailleurs la société actuelle, qui veut nous imposer ce que le pape Benoît XVI a appelé la dictature du relativisme. Hein, il dit ça dans sa première homélie, d'ailleurs il n'est pas encore pape, c'est l'homélie avant l'élection du pape, il dit « Aujourd'hui, là, on nous a imposé toutes sortes de choses », j'aurais aimé citer ce texte, je cite souvent, mais je vais citer du Benoît XVI juste après, il dit « La seule attitude qui semble conforme, hein, si tu ne veux pas être ni un fasciste, ni un méchant fondamentaliste, radicalisé, extrémiste, etc., c'est de tout relativiser. » Donc c'est une dictature, en disant « Oui, mais je crois à ça, mais j'y crois pas vraiment, c'est parce que ça me fait du bien, etc. » Ben non. Nous, chrétiens, et en particulier catholiques, nous ne pouvons pas tomber dans la dictature du relativisme. Nous ne sommes pas, ça n'existe pas. Catholique modéré, ça n'existe pas. Catholique gentil, catholique qui est ouvert, catholique qui, au nom même de sa foi, on le verra dans quelques instants, se tourne vers les hommes, parce que catholique, ça veut dire universel. Donc là, Hakuna Matata, il n'y a aucun problème. Mais catholique modéré qui met sa foi dans sa poche, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister. En tout cas, ce n'est pas ça la juste attitude. Et quand on veut imposer à des musulmans, à des hindous, ou toutes sortes de religions, d'être modérés dans leur foi au nom de la laïcité, etc., ben ce n'est pas humain. Ce n'est pas possible. Un croyant, c'est comme un amoureux, ne peut pas être un petit peu amoureux. On ne peut pas. Quand on est marié, on ne peut pas être un peu marié. Or, nous avons fait alliance avec Dieu. Et donc, cette dictature du relativisme veut que toute pensée qui croit en une vérité est opposée et violente par rapport à l'autre, eh bien, derrière, il y a un soubassement philosophique qu'il faudra rejeter, qu'on ne peut pas accepter. Je peux être ferme dans la vérité, au nom de quoi on le verra avec Benoît XVI tout à l'heure, au nom de la raison. Au nom précisément de dire, ce en quoi je crois n'est pas un pur acte subjectif, ce n'est pas une simple croyance, c'est un acte de mon intelligence. Et je crois que mon frère en face, mon frère avec qui je dialogue, qui croit aussi à quelque chose peut-être de différent, lui aussi, il peut y croire de façon rationnelle. Et si nos intelligences sont toutes les deux actives, c'est pas simplement la force d'une subjectivité, d'un affect qui s'exprime, mais c'est bien un acte d'intelligence, alors là, on peut rentrer en dialogue. Même si au départ, on n'est pas forcément dans la contradiction, mais on ne croit pas à la même chose. Alors pour comprendre cela, la question, c'est la question de l'alliance. Quelles sont nos alliances, hein ? Avec qui faisons-nous alliance ? Parce que chaque religion est une forme d'alliance. Religion, ça veut dire être relié. Relié avec qui ? Alors, la Bible nous enseigne qu'il y a quatre alliances. Alors, ça va aller un peu rapidement, je vous demande pardon. Ce sera un peu rapide. D'abord, l'alliance avec Noé. Alliance dans la nature. Et ces alliances existent aujourd'hui. Noé voit l'arc-en-ciel, il fait alliance avec Dieu. Alors aujourd'hui, il y a certains écologistes mystiques, etc., le New Age, les animismes, le film Avatar ou Star Wars, le chamanisme, même le vaudou, le bouddhisme, ce sont des formes de religion où, dans les forces de la nature, dans l'observation, certaines formes de bouddhisme, de philosophique, hein, pas le bouddhisme qui croit en un dieu, mais voilà. Voilà, il y a quelque chose, il y a une vague... sentiment religieux, mais qui est quelque chose d'authentique, puisqu'il naît de la nature, des fleuves, des forces, etc. C'est l'alliance qu'on retrouve avec Noé dans la Bible. Deuxième alliance, l'alliance avec Abraham. Là, Dieu se révèle. Et là, il fait alliance, pour le coup. Il fait vraiment alliance. Alors, il y a toute forme de théisme, des religions qui croient en un Dieu, mais... Voilà, il n'y a pas une expérience, il n'y a pas une loi, il n'y a pas... Abraham, il se contente de la circoncision, il n'y a pas de loi à ce moment-là. La loi viendra juste après, c'est l'alliance suivante avec Moïse. Bon. Parlons-en, Moïse, troisième type d'alliance avec Dieu, troisième type de religion, si vous voulez, hein, c'est la religion avec une loi. Alors, le judaïsme, en premier, l'islam, mais aussi, plus proche de nous, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est un rapport à la Bible, mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas que le Christ est Dieu. Donc le rapport est plus un rapport de loi. Il y a une loi qui est donnée par la Bible, et on respecte une loi. Et vous verrez qu'avec nous, ce n'est pas du tout la même chose. La quatrième alliance, c'est l'alliance éternelle, c'est l'alliance en Jésus-Christ dans l'esprit. Donc ce n'est pas dans la nature comme Noé, dans une révélation comme Abraham, ou dans une loi comme avec Moïse, mais c'est comme des poupées russes. Cette alliance en Jésus vient assumer toutes les autres alliances, et c'est une alliance dans l'esprit. Donc tous ceux qui croient que Jésus est Dieu. Et la question de la religion c'est quoi ? C'est avec qui je suis relié ? Eh bien, si dans un premier cas je suis relié à la nature, je suis relié à un Dieu que je ne connais pas, mais dont j'ai une certaine expérience, ou à une loi, dans la religion chrétienne, dans la foi chrétienne, on est relié à quelqu'un. Et là, ça change tout. Et ce n'est pas une doctrine à laquelle j'adhère, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qui est absolu, qu'est-ce qui est relatif ? Pour nous, ce qui est absolu, c'est la personne de Jésus. Tout le reste est relatif. Tout est relatif. Tout est second, peut-être pas secondaire. Par exemple, la morale, comment on se comporte, la question de mon comportement sexuel, de mes attirances, de ceci, de ma façon d'être. C'est très important. Mais ce qui est essentiel, c'est l'absolu, c'est la fin. Ce n'est pas les moyens. Ouais. Si on met la charrue avant les bœufs, on met les moyens avant. Donc les moyens, c'est quoi ? C'est aller à la messe le dimanche. Si tu n'y vas pas, tu vas en enfer. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai. Parce que la première chose dans la foi chrétienne, c'est d'aller vers le Christ. Parce que je peux très bien aller à la messe le dimanche sans aller vers Jésus. Et là, j'ai raté. Ouais. Et ça, c'est unique. Il faut qu'on comprenne bien, nous chrétiens, que ce type de relation à Dieu, c'est unique. Les autres religions ne pensent pas comme nous. J'écoutais une émission avec du frère Adrien, de Paul Adrien, sur son super podcast, ses super vidéos, et il recevait un prêtre, le père Ramzi, qui parlait comment parler à un musulman. Il disait, les musulmans, ils ne comprennent pas tout de suite. c'est ce qu'il disait en tout cas, que Dieu m'aime, moi, qui a une relation personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de relation, dit-il, moi je connais peu l'islam, mais il disait ça, lui c'est un spécialiste, pas de relation personnelle avec un Dieu qui me parle et qui m'aime comme un fils, et que j'aime comme un père. Alors, Benoît XVI, pour finir, a donné des clés. Benoît XVI est le maître de l'antiviolence religieuse. Il est allemand, n'oubliez pas, il est allemand, et il a connu la violence du nazisme, qui est un peu le même phénomène, qui est un phénomène quasiment mystique, religieux, démoniaque certainement, on a des preuves maintenant, et n'oubliez pas que les prêtres et les juifs ont été, les prêtres, les catholiques et les juifs plus que les prêtres et les catholiques, ont été massacrés par le régime nazi. Et donc il a vu naître dans son enfance cette violence, et il l'a vu s'accomplir, puissance comme on ne l'avait jamais vu avant dans l'histoire de l'humanité. Alors, et il rappelle qu'un chrétien n'est pas un militant endoctriné par une doctrine, enfin, n'est pas quelqu'un de... D'abord, voilà, c'est, un chrétien est un ami de Dieu et un témoin de Dieu. C'est très différent, vous voyez. Je n'ai pas donné ma vie à un texte qui s'appellerait la Bible, j'ai donné ma vie à quelqu'un. Je suis un ami. À l'origine du fait d'être chrétien, dit-il, il n'y a pas une décision éthique, une grande idée. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas avoir un ensemble de lois, de commandements, mais avoir rencontré un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et une orientation décisive. Donc le chrétien est un ami, témoin de son amitié, et non pas un sorte d'avocat qui doit plaider, ou un militant qui doit imposer une façon de vivre ou d'être. Il est d'abord un témoin de quelqu'un qui a changé sa vie, qui a donné sa vie pour lui. C'est cela. Vous voyez, c'est là que la foi chrétienne répond à toutes les violences, et à toutes les violences religieuses, entre autres, mais toutes les violences, en disant, mais attends, pourquoi tu es violent? Parce que tu n'es pas témoin du Christ qui a donné sa vie. Toute la violence du monde, il l'a assumée sur la croix, et il en était la victime, et non pas l'auteur. Il n'a jamais commis de mal. Il n'a jamais eu un acte de violence. Non. Alors, une culture, dit Benoît XVI, purement positiviste, qui renvoie dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question de Dieu et de la religion, serait une capitulation de la raison. Si la question religieuse, on dit, mais non, mais ça, c'est pas rationnel. La religion, on n'a pas à réfléchir, c'est comme ça. Eh bien, à ce moment-là, dit-il, c'est un renoncement de la raison, c'est un échec de l'humanisme, et les conséquences pourraient être très graves. C'est-à-dire, lorsque la foi n'est pas habitée par une démarche de l'intelligence qui réfléchit, et qui essaie de réfléchir avec son frère, qui rentre en dialogue, eh bien forcément, on dit chacun sa foi, moi je crois ça, toi non, tu as tort, j'ai raison, et ça peut être que le combat. Le chrétien est donc un ami, témoin qui réfléchit, qui aime et qui rentre en dialogue. Et c'est ça l'idée. Si la raison, dit-il encore à Ratisbonne, reste sourde à toutes les questions de la religion et considère que la religion, c'est une sous-culture, s'il n'y a pas de dialogue religieux possible, il n'y a pas de dialogue avec le monde, il n'y a pas de dialogue avec les autres, on s'enferme, on enferme les chrétiens dans leurs églises et dans leurs prières, on dit le reste, vous ne vous en occupez pas, tant pis pour vous. Eh bien, depuis longtemps, dit-il, l'Occident a été menacé et ne pourra en subir qu'un grand et immense dommage. Vous voyez comment la réponse de Benoît XVI, en montrant comment la religion chrétienne et la foi que le Christ est venu nous apprendre, c'est une relation avec un ami dont nous devenons le témoin. Et ce que nous avons annoncé au monde, c'est la vérité. Une vérité, mais que l'autre, à laquelle l'autre a accès aussi par son intelligence et sa tradition. Et là, c'est la source de tous les dialogues et la non-violence absolue. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
La parole de Dieu.
Parole.
Bienvenue dans la deuxième partie de la catéchèse sur les violences et la radicalisation religieuse. Donc on continue sur le thème « Lumière du Christ dans le monde qui passe ». Puis aujourd'hui on reçoit quelques membres éminents de la pastorale familiale de la Martinique qui vont poser de super questions. Je n'en doute pas un instant vos questions. On écoute.
Oui, Monseigneur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de religions ?
Alors, comme on l'a dit dans la catéchèse, la religion, c'est la relation. C'est la relation. Alors, tu es marié, tu as une épouse. Elle a une relation d'alliance avec toi, elle te connaît très bien. Vous ne faites plus qu'un en Dieu, et même pour vos enfants, etc. Donc, elle a une relation unique et primordiale. Tes enfants ont une relation avec toi comme père. Mais tes collègues ont une autre relation avec toi. C'est encore une troisième relation. C'est un collègue, ils te connaissent. Si tu es encadrant par rapport à des subordonnés, ils ont une relation, tu es leur chef qui donne la règle, la loi. Dans la rue, tu passes, tu es un passant. C'est encore une autre relation. Tu es un client de tes commerçants préférés ou de ton coiffeur. Donc, chaque personne a des relations différentes. Si tu es artisan ou artiste et que tu fais quelque chose, tu fais, je sais pas, un mur, tu es maçon, tu fais un mur. Les gens qui voient ce mur ne te connaissent pas, ne t'ont jamais vu, ne connaissent pas ton nom, ne savent pas si tu es vivant ou mort, mais ils voient ton œuvre. Ils peuvent avoir une certaine relation avec toi, en disant, ouais, c'est un bon artisan ou bien c'est un pecno qui a pas su faire le mur, j'en sais rien, voilà. Donc, il y a différentes relations et pourtant tu es la même personne. Époux de ta femme, père de tes enfants, fils de tes parents, enfin, collègue de tes collègues, chef de tes subordonnés, subordonné de tes chefs, enfin, voilà. Donc les relations changent. Eh bien, un seul Dieu, il y a différentes relations avec Dieu. La relation, c'est pour ça que j'ai détaillé dans la catéchèse les différentes alliances, les différents types de relations avec ce Dieu, à travers la nature, c'est l'arc-en-ciel de Noé. À travers l'expérience mystique où il y a un Dieu qu'on ne connaît pas très bien mais que l'on honore d'une certaine façon, comme Abraham avec la circoncision, un Dieu qui a donné une loi, la loi de vie, alors qui est une loi à la fois politique, morale, religieuse, etc. Mais enfin bon, on mélange tout, parce que c'est la loi qui apporte une certaine vérité, un certain bonheur. Et puis, au sommet, il y a cette relation unique. Et les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont une relation unique par le sang de Jésus, par la croix de Jésus, parce qu'ils ont été faits fils et filles de Dieu. Ils peuvent appeler Dieu papa. Alors, dans cette relation-là, il y a toutes les autres. Toutes les autres relations sont assumées par cette relation unique avec un Dieu que l'on appelle notre Père, qui est unique. Alors évidemment, on peut dire, j'ai décrit d'un point de vue de la relation, mais d'un point de vue des pratiques, mais ça change. C'est vrai qu'entre les orthodoxes ou les chrétiens, les catholiques orientaux et nous, on n'a pas la même façon tout à fait de célébrer la messe, mais pourtant c'est la même messe. Ça vient toujours du Christ, ça vient toujours de cette relation Christ, c'est le même baptême. Avec les protestants, c'est le même baptême au moins, et la même parole de Dieu. Par contre, eux, ils ont enlevé tous les autres sacrements parce qu'ils vont, pour des raisons de leur histoire à eux et de l'histoire de l'Église depuis un ou deux siècles, sur 2000 ans. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, on a aujourd'hui, parce que nous sommes des êtres différents, des groupes humains différents, des cultures différentes, différentes relations, mais finalement, quand on regarde bien, il n'y a qu'une seule relation qui vaille. C'est l'alliance avec le Christ dans l'esprit. Mais elle assume les autres, et donc les autres ne sont pas fausses. C'est pour ça que dans le christianisme, enfin c'est pas ma religion le christianisme, ma religion c'est le Christ. C'est le Christ, c'est quelqu'un. Bien, dans le Christ, je ne peux considérer aucun être humain comme un ennemi, puisque je sais que chaque être humain est appelé à être comme moi, fils de Dieu. Donc le Christ vient tuer et éteindre toute violence religieuse. Question suivante.
Oui, Monseigneur. Peut-on dire qu'il existe un lien entre le fondamentalisme religieux et le fondamentalisme laïque ?
Oui. Oui, c'est une très bonne question. Il y a un intégrisme ou un fondamentalisme laïque. Alors, selon moi, je peux me tromper, il ne peut être que post-chrétien. Il n'y a que des chrétiens pour inventer le fondamentalisme laïque. D'ailleurs, le mot laïque vient du terme « laos ». Alors, c'est un peu technique. Laos, ça veut dire quoi? Ça veut dire le peuple. Il y a un autre mot qui veut dire le peuple, c'est le démos, qui a un mot donné, démocratie ou démographie. Alors, la différence, c'est le peuple quand il est assis dans un bus et le peuple quand il est assis dans une église ou autour d'une table en train de manger parce que c'est une association d'amis, etc. Dans un bus, on ne connaît pas les gens. Il y a des gens autour de nous. C'est le démos. Le peuple, c'est un certain nombre de personnes qui vivent au même endroit, qui ont des coutumes communes. Et Laos, ce sont des frères et sœurs qui sont appelés. C'est la même réalité. Ce sont toujours un groupe d'hommes et de femmes, avec des enfants, des anciens, etc. Mais par contre, ceux-là, le Laos, c'est quand il y a un projet commun. Donc le mot laïque, en fait, c'est quoi un laïque? C'est un chrétien engagé dans sa foi. Or, en France, on a utilisé ce mot pour, au contraire, dire laïque, ça veut dire qu'il rejette toute religion, ce qui est faux au départ. La laïcité, c'est le fait que l'État et les services publics ne relèvent d'aucun culte en particulier. C'est-à-dire que tu es professeur dans un lycée public, tu n'as pas à faire état de ta religion pour donner un cours, etc. Ça veut dire ça au départ. Donc, que l'État soit laïque au sens français, c'est-à-dire n'ait aucune religion, rendez à César ce qui est à César, à Dieu Jésus, et à Dieu ce qui est à Dieu, nous les chrétiens, c'est tout à fait, il faut être chrétien pour être laïque, comme dirait au sens français du terme. Par contre, la société civile n'est pas sans religion. Toi, tu n'es pas censé ne pas avoir de religion. Tu as une religion. D'ailleurs, Dieu merci, j'ai envie de dire, les musulmans nous rappellent que ça n'existe pas un homme sans religion. Et on a voulu nous étouffer sous un édredon, nous disant, mais non, mais la religion, c'est la sphère privée, tu n'as pas à dire qui tu es, etc. Mais c'est pas vrai. Celui qui ne doit pas le dire, c'est mon maire, mon instituteur, le gendarme, etc. Il ne doit pas le dire, mais il peut avoir sa religion, il doit être discret. Mais la société civile, c'est pas vrai. Dans la rue, je dois pouvoir exprimer ma religion sans l'imposer aux autres. Ça, d'accord. Mais je dois pouvoir dire qui je suis. D'ailleurs, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que les prêtres, les religieuses, comme Sœur Françoise ici, font. Nous disons qui nous sommes, comme toi avec ton alliance si tu es marié, etc. Donc, il y a un intégrisme, un fondamentalisme laïque qui est post-chrétien, en fait. Ce sont des sociétés qui rejettent le christianisme et qui, encore une fois, crucifient le Christ. Parce que cette laïcité-là n'est pas pensable chez des musulmans, par exemple. Ou même notre religion, ça n'existe pas, ça. Quelqu'un qui n'a pas la religion, parce que chez le judaïsme non plus. Donc il faut, d'une certaine façon, c'est parce que le Christ nous laisse tellement libres, nous donne tellement la possibilité, il veut que nous allions vers lui librement. Donc il nous laisse la possibilité même de ne pas croire en lui, mais il ne faut pas que nous oublions qu'il y a un purgatoire et un enfer aussi. Et que notre rejet de Dieu a des conséquences sur la société. On le voit en Martinique aujourd'hui, les familles ne prient plus. Laïcité, tout ça, machin, on a évacué Dieu de la foi, de l'école, même de la famille, et on s'étonne qu'il y ait des crimes, des violences, etc., que la société s'effondre et se collapse. Ben ouais, parce qu'on a enlevé Dieu quelque chose qui est essentiel. C'est pas, la foi n'est pas quelque chose de superfétatoire ou de c'est pas la cerise sur le gâteau qu'on rajoute à la fin de sa vie si on a envie de quoi. C'est essentiel à l'homme. Donc cet intégrisme laïque, oui, il est même l'un des grands, des grands projets de la bête de l'Apocalypse, quoi.
Monseigneur, peut-on dire que Paul, avant sa rencontre avec Jésus, était fondamentaliste?
Tout à fait. Et tu touches là d'ailleurs une des racines du fondamentalisme chrétien qui peut exister. Lorsqu'on fait des œuvres pour Dieu et non pas les œuvres de Dieu. C'est Laurent Fabre, le fondateur du Chemin Neuf, qui nous a fait une belle retraite là-dessus dernièrement. Paul, il agissait pour Dieu. Et les fondamentalistes, ils agissent pour Dieu. C'est-à-dire, ils vont essayer de... la radicalisation, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas faire des œuvres pour Dieu, en étant sûr que c'est pour Dieu. Et tu vas demander à Dieu de venir finalement dans tes œuvres, mais en étant profondément sincère. La sincérité, c'est pas la vérité, hein. On confond parfois. Quelqu'un de pas sincère, c'est un menteur, mais quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ça peut être juste quelqu'un qui est dans l'erreur. Or, le fondamentalisme religieux, l'extrémisme, le radicalisé est sincère. Il peut même aller jusqu'à donner sa vie. Après tout, un martyr chrétien est un radical, est un intégriste, au sens où il a intégralement donné sa vie à Dieu et à sa foi, mais dans l'amour. C'est ça toute la différence. Bon. Donc, et effectivement, il y a cette radicalisation qui est profondément inscrite dans le fait de faire des œuvres pour Dieu, de respecter une loi, à tel point que Jésus va dire aux pharisiens, tu auras noté parce que Paul est un pharisien, il va plus s'opposer aux pharisiens qu'aux publicains, qui sont des pécheurs, qui sont dans la débauche, l'alcool, les femmes, l'argent, etc. Il va davantage s'opposer parce qu'il va leur dire, mais vous êtes des idolâtres. Qui est-ce que Jésus va traiter d'idolâtre? Souvent, nos frères protestants nous disent que nous sommes des idolâtres parce qu'on a des statues. Bon, il n'y a aucun catholique qui croit qu'une statue est Dieu ou la Vierge Marie, c'est une représentation. Donc, par contre, celui qui va traiter d'idolâtre dans l'Évangile, ce sont les pharisiens qui font tout ce que dit l'Écriture. Ils n'ont surtout pas d'objet, de machin, etc. Or, ils sont idolâtres de quoi? Vous allez tomber des nues. De l'Écriture. Parce qu'ils sont tellement obnubilés par la loi que lorsqu'ils ont l'auteur de la loi devant eux, ils ne vont pas le reconnaître. Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Parce qu'ils ne font pas l'œuvre de Dieu, ils font l'œuvre pour Dieu. Et c'est ça la racine profonde, merci pour ta question, de la radicalisation ou du fondamentalisme religieux, et même de la violence. Alors là, du coup, Paul, il a envie de massacrer les chrétiens, il est sûr qu'il a raison, il est sûr que, etc., parce que il sait, il agit pour Dieu, mais en fait, il n'a pas demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je fasse? Inversement, c'est ce qui va arriver à Pierre. Rappelez-vous, lorsque Pierre ne veut pas manger des viandes immolées, etc., ou Paul, les viandes immolées, mais Pierre, il est à Césarée, et il est sur une terrasse, et à un moment, il a une vision où on lui présente un drap avec toutes les viandes interdites par la religion. Et le Seigneur lui dit, vas-y, mange. Il dit, non, Seigneur, mais je ne peux pas manger. Le Seigneur lui dit, mais c'est moi qui te dis que tu dois manger. Ma loi est avant moi. C'est moi. Et là, Pierre comprend, et au même moment, c'est une vision. Au même moment, on l'appelle à la porte, et là, ce sont des envoyés de Corneille, qui est un païen, qui est un romain. Donc, acte 10, 44, il arrive chez Corneille, il commence à prêcher, et là, Corneille, qui n'est pas circoncis, qui n'est pas juif, Corneille reçoit l'Esprit-Saint avec toute sa famille et ses amis qui sont là. Et il les baptise. Et ça, c'est la grande question du synode de Jérusalem, acte 15. Et là, on dit à Pierre, mais comment ça? Il s'énerve, il se fâche. On dit, mais il faut les circoncire, il faut qu'ils soient juifs, c'est écrit dans la loi. Et là, ils discutent, on le dit deux fois dans le texte, ils s'engueulent. Hein. Et finalement, à la fin, c'est acte 15, 28, je crois, l'Esprit-Saint et nous avons décidé de ne pas vous imposer. Donc, ils comprennent, non pas l'œuvre pour Dieu, leur petite idée à eux, et pourtant c'est la loi écrite, hein, mais l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu a manifesté, et Pierre a un superbe discours, il dit, mais l'Esprit-Saint leur a été donné à eux, comme à nous au commencement. Ils ont reçu le même Esprit. Est-ce que je pouvais ne pas, et si l'Esprit-Saint le veut, est-ce qui suis-je moi pour ne pas les baptiser? Et ça, c'est une grande question qui est posée à toutes les religions, à tous les hommes, toutes les femmes qui sont croyants, quelle que soit leur religion, surtout nous chrétiens. Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu ou une œuvre pour Dieu? Prochaine question.
Quelle est la responsabilité des chrétiens, selon vous, dans ce monde où il y a beaucoup de violence? On a parlé du fondamentalisme, mais non seulement au sens de l'accusation, mais aussi du devoir.
La responsabilité des chrétiens. Alors, elle est pas directe. Parce que je ne crois pas, j'ai cherché quand même avant de faire l'enseignement, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont auteurs d'attentats Alors, c'est pour ça que j'ai fait référence à l'histoire, au Code Noir, j'ai fait référence des chrétiens, et c'est pour ça que Jean-Paul II, à Gorée en l'an 2000, je crois, a prononcé un sublime discours sur les violences posées par des chrétiens, parfois au nom de la foi, mais pas au nom de la foi, parce que l'Église, dans tous ses textes, et Dieu merci, dans notre Église, il y a ce qu'on appelle le magistère, il y a les textes, et on sait comment les papes ont toujours condamné les violences au nom de la foi, toujours condamné l'esclavage, toujours. Tous les textes des papes sur 1000 ans. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est la seule institution au monde qui l'a faite. Donc la violence a toujours été condamnée, mais des chrétiens ont commis des violences, et au nom de la foi. Alors, il y a une violence qui est permise, c'est ce qu'on appelle la guerre juste. La guerre juste, c'est quoi? J'expliquais à des jeunes cet après-midi. Si tu dois protéger tes enfants, et tu as un voisin qui les agresse, tu as le droit d'utiliser une certaine violence proportionnée, ayant tout tenté pour empêcher ton voisin de massacrer ou de porter atteinte à ta famille. Je dis bien proportionné et en ayant tenté tout ce qui est possible, par ailleurs. Mais si c'est pas possible et que tu es obligé de lui donner un coup de bâton pour, parce qu'il arrive avec un coup de là, eh bien, ça, pour un chrétien, c'est possible. C'est possible, c'est de la légitime défense, pour être très simple, mais la vraie légitime défense. Bon. Donc la violence pour un chrétien est possible en légitime défense. Et le but n'étant pas du tout de faire du mal à l'autre, mais de le mettre en état de nuire autant que possible, non pas d'employer un canon et de mettre une bombe chez lui si lui, il a simplement injurié ma famille. Voilà, donc il faut que ce soit proportionné. Il faut que j'ai tenté toute autre possibilité, mais à un moment donné, si vraiment ma non-action, ce serait un péché par omission de ne pas agir, y compris d'utiliser une certaine force, je dis violence, voilà. C'est le seul cas. Mais dans l'histoire, donc l'Église a toujours été très claire là-dessus, les saints et les saintes de Dieu, etc. Bon. On peut dire Jeanne d'Arc, par exemple. Jeanne d'Arc elle-même a porté les armes, elle ne les a jamais utilisées, mais elle a quand même mené la bataille, ou encore Notre-Dame du Rosaire. 1571, le pape fait prier le rosaire par toute la chrétienté parce que l'armée turque attaque l'Occident et si les Turcs gagnent, c'est tout l'Occident qui devient musulman. Et donc là, il fallait une victoire. Donc là, la violence a été utilisée par des chrétiens et légitimement pour se défendre. Bon. Mais pas une violence au nom de la religion, etc. Mais il y a une responsabilité quand même des chrétiens par rapport à la violence, c'est aussi la non-assistance à personne en danger. Je suis désolé, quand je vais à la prison chez nous et que je vois des jeunes qui étaient au catéchisme 10 ans avant, ou au cheminement, je dis, mais à nous, qu'est-ce qu'on a fait? Soyons clairs. On laisse éduquer nos garçons. Moi, je reçois tous les confirmés ici. Il n'y a que des femmes comme animatrices qui sont géniales. Vraiment, qui sont toutes données. Mais il n'y a pas un homme. Déjà, dans les familles, il n'y a pas assez d'hommes. Mais en plus, au catéchisme et à l'école, il n'y a que des femmes. Donc, les garçons, pour s'identifier, ils vont quoi? C'est un peu rapide, ce que je dis. Ils vont dans la rue. Ils vont dans la rue parce que là, ils trouvent des mecs. Mais qu'ils leur apprennent quoi? Et c'est ça le grand souci de notre responsabilité aussi. Si les chrétiens se renferment, s'ils ne témoignent pas, si on se calfeutre, je dis ça parce que je suis remarqué ces jours-ci, j'écrivais un texte, je me rends compte qu'on a laissé tous les milieux qui font la culture, la rue, les médias, la politique, l'enseignement, etc. Les chrétiens se sont engagés pour être ministre de communion, c'est très bien, ministre de la parole à l'Église, mais lorsqu'il faut entrer dans un syndicat, etc., aller parler à la télé, aller parler à la radio, et s'engager et militer, regarder nos jeunes chrétiens, aller sur TikTok, il n'y a plus personne, on ne sait pas faire, nous les catholiques. On ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, c'est des messes et des prières. C'est très bien. Mais ça suffit d'une certaine façon. Mais encore faut-il qu'à un moment donné, on témoigne, aller dans le monde entier, témoigner de l'Évangile et porter la bonne nouvelle, dit le... Voilà. Donc ça, il y a aussi une responsabilité indirecte des chrétiens dans la violence, dans la mesure où ils n'ont pas témoigné. Alors il y a donc trois réponses, hein, les chrétiens qui ont commis des fautes et des péchés, même si c'est au nom de l'Évangile, mais c'est contraire à l'Évangile et à l'enseignement de l'Église. La violence de chrétiens qui, là pour le coup, vont se défendre s'il le faut, quand ils le peuvent, et sans, voilà. Même si aujourd'hui, dans le monde, ils sont massacrés. Les chrétiens qui vont à la messe au Nigeria le jour de Noël, ils sont pas sûrs de ressortir vivants. Ou à Pâques. Bon. Nous, ça va ici. Bon. Et puis, troisièmement, les chrétiens qui ne se sont pas assez engagés, qui n'ont pas annoncé l'Évangile. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait le pasteur de la rue super strong en Martinique, avec des jeunes, etc. Et si on y allait, quand on y va, on est écouté. Les jeunes nous écoutent, les gens de la rue, ils nous attendent. Ils attendent le témoignage de chrétiens qui montent sur un carton et qui parlent de Jésus et qui les emmènent. Ils attendent, mais nous, on ne le fait pas. Mais on a une responsabilité. Moi, en premier.
Bien, mais Monseigneur, enfin, je suis un petit peu embêté parce que j'ai finalement deux questions à travers tout ce qui s'est dit. Mais enfin, la première, c'est par rapport à la laïcité. Où il est dit que, par exemple, un professeur ne doit pas faire état de sa couleur religieuse. La question, je prends l'exemple d'une sage-femme, par exemple, qui est confrontée à une sage-femme chrétienne, confrontée, par exemple, à un avortement. Doit-elle, peut-elle ou doit-elle s'y opposer?
Alors oui, bien entendu. normalement, alors, on l'a enlevé pour les pharmaciens. Je sais plus où ça en est aujourd'hui, parce qu'avec cette affaire de constitutionnalisation, et puis comme on a permis à Monsieur Macron et ses copains de faire tout ce qu'ils voulaient, on n'a pas manifesté tellement, hein. Nous, on n'a pas écrit à nos députés, on n'a pas fait ça. Mais, donc, on porte une petite responsabilité tous ensemble aussi. Mais normalement, il y a une clause de conscience. Donc, normalement, un professionnel de santé qui ne, en conscience, refuse de le faire, doit pouvoir le faire, c'est dans la loi. Normalement. Mais évidemment, les intégristes radicaux fondamentalistes, notamment sur la question de l'avortement, nous interdisent de dire que c'est pas bien dans la loi, nous essaient de grappiller les droits de ceux qui, en conscience, pensent que c'est la suppression d'une vie humaine. Et il faut se battre. Mais normalement, une infirmière, un personnel soignant n'est pas obligé. Maintenant, ça dépend de qui on met comme ministre, et c'est pour ça qu'il faut bien voter. Je suis désolé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une ministre, une fois, Mme Bachelot, qui a dit qu'elle allait noter les hôpitaux et donner d'autant plus de moyens à tous les hôpitaux. Plus ils font d'avortements, plus ils seront dotés de moyens. Donc il y a des gens qui ont une certaine perversion. Bon, les pauvres, ils sont sincères peut-être, hein, mais comme tous les radicaux, ils sont sincères. Tous les islamistes, tous les hindouistes, tous les radicaux de quelque religion, quelque politique que ce soit, on en parlera, sont à fond dans ce chemin. Donc normalement, elle doit pouvoir avoir une clause de conscience. Elle doit le faire. Et puis on a dans l'Église des groupes de milieux sanitaires et sociaux qui réfléchissent à ce genre de questions. Il y avait une deuxième question.
Alors oui, si je peux. Alors, comme il a été cité tout à l'heure, le Code noir, j'en profite parce que la responsabilité de l'Église, comment l'Église perçoit ce mot dans dans la Bible, esclave, l'esclave, hein, obéir, que l'esclave obéisse à son maître, enfin voilà.
Tout à fait. Très bonne question. Enfin, toutes les questions sont bonnes d'ailleurs, mais j'aime beaucoup les questions. Surtout à nos jours, il y a ChatGPT. Ceux qui sont bons, c'est ceux qui savent poser les questions, parce que ChatGPT répond à tout. Donc il a toutes les réponses, enfin il n'y a pas que lui, mais... Donc c'est ceux qui sont bons, c'est ceux qui savent poser des questions. Donc, le mot esclave, en fait, c'est un système économique qui fait que quand tu n'as pas d'argent, tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Et du coup, tu vas travailler pour cette personne. C'est très simple, tous ceux ici qui ont des prêts sont esclaves. Parce que tu... Alors, tu n'es pas 100% esclave, puisque le prêt, tu ne le rembourses pas à 100% de ton salaire. Tu le rembourses à 20% de ton revenu, enfin, du salaire, de ton revenu. Bon, donc, mais tu as 20%, c'est-à-dire qu'à 20%, tu travailles pour la banque parce qu'elle t'a donné de l'argent. Bon, donc, au temps de Jésus, l'esclavage, c'était ça. Quand quelqu'un devait beaucoup d'argent, quelqu'un ne pouvait plus rembourser, il n'y avait pas saisi comme il y a maintenant, la personne était vendue comme esclave. C'est-à-dire que tout son travail revenait au maître. Mais esclave, ça ne veut pas dire qu'il prend des coups. Il y avait des esclaves qui étaient directeurs gérants de toute une propriété pour le maître. Ils avaient autorité sur tout le monde. Mais ils travaillaient, entre guillemets, gratuitement. C'est-à-dire que tout leur travail était pour le maître. D'ailleurs, l'un des papes qu'on a fêté hier ou avant-hier, ces jours-ci, il a permis que des esclaves puissent épouser des femmes libres. Mais ce n'était pas des esclaves comme nous. L'esclavage qu'on a inventé, par les musulmans en Afrique. Hein, Et puis ensuite, les Portugais les ont imités. Et comme on cherchait de la main-d'œuvre, on a d'abord fait venir des blancs chez nous, les engagés. Mais comme ils mouraient parce qu'il faisait trop chaud, donc ils sont allés chercher. Les Indiens aussi mouraient, enfin les Indiens, ce qui n'étaient pas Indiens, les peuples autochtones mouraient à cause des maladies venues de l'Europe. Ils sont allés chercher les Africains qui étaient plus résistants. Et donc, ils ont inventé un esclavage qui n'était pas du tout l'esclavage d'avant, qui était un esclavage commercial, et puis violent, et puis, etc. Enfin, celui que nous, on appelle esclavage, et qui est un crime contre l'humanité. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas... Enfin, c'est un système qui est condamné par l'Église en tant qu'il est un système qui n'est pas conforme à la dignité humaine. Même l'esclavage où, imaginons que demain, tu dois tellement à la banque, tu es en surendettement, qu'on te dit, mais désormais, ta femme et toi, tes enfants, hop, vous allez tous travailler pour la banque, ou tel banquier, ou la banque vous vend, pour le prix de votre dette, à quelqu'un d'autre, qui achète votre dette, mais qui vous achète vous aussi, puis vous êtes obligé de servir la personne tout le temps. Même si la personne ne vous fouette pas, ne vous met pas, etc., même si elle vous donne des vacances, ce n'est pas conforme à la dignité d'un être humain. Voilà, c'est ça le système d'esclave, de servage. Le servage, c'est un autre mot qui était... Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Amen.
qui a fait le ciel et la terre.
Merci à tous.